Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les parents, les professeurs des écoles, les éducateurs Montessori et toutes les personnes intéressées par la pédagogie Montessori et la neuroéducation. Je suis Céline Guerrero, maman, prof des écoles en dispo, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant et chaque adulte développe son plein potentiel. En plus de mes ateliers Montessori le mercredi, je forme des professeurs des écoles de maternelle à la pédagogie Montessori et les élèves de CE2, CM1 et CM2 pour apprendre à apprendre. Et bonne nouvelle, pour ma formation en ligne Impact, donc Impact c'est immersion Montessori pour des adultes et des classes transformées, vous allez pouvoir faire financer votre formation. Vous retrouverez toutes les infos sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. J'ai aussi la chance de travailler avec Eram Montessori. Et donc, si votre projet est de devenir éducateur Montessori, rendez-vous sur formationeramontessori.com. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés avec vos amis et vos collègues. Et depuis peu, vous pouvez soutenir mon travail en vous abonnant pour 5€ par mois. Le lien est dans les notes de chaque épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, le 115e, où nous allons nous poser la question de ce que nous voulons vraiment pour nos élèves cette année. J'ai tapé cette phrase sur Google, ce que je veux pour mes élèves, et je suis tombée sur un épisode de podcast, un podcast que je ne connaissais pas. Une enseignante, en fait, j'ai écouté dans les grandes lignes, à chaque fois j'entendais programmation, préparation, fiche de prep, ça tournait beaucoup autour de ça. Et en fait, le risque que je trouve, c'est que quand on a la tête dans le guidon, parce qu'il faut quand même bien anticiper un peu la préparation de son année, le risque, c'est d'oublier de se poser cette question qui me paraît fondamentale, c'est qu'est-ce que je veux vraiment pour mes élèves? Alors, contrairement à vous, je ne vais pas vivre une rentrée là au mois de septembre, ça fait plusieurs années que je suis en dispo, et j'accompagne toujours des enfants dans le cadre de des ateliers Montessori du mercredi, et j'accompagne aussi des professeurs des écoles qui ont envie de transformer leur quotidien en classe, donc je ne vais pas faire une rentrée comme la vôtre, mais je vais quand même accompagner deux nouveaux groupes les mercredis. Donc je me suis, j'ai joué le jeu, je me suis posé la question. Mais avant que je vous révèle les trois choses qui me sont venues à l'esprit, j'aimerais bien que vous preniez le temps de vous poser la question. Donc je vous invite à mettre en pause et prenez le temps dont vous avez besoin, si vous avez la possibilité de mettre en pause et demandez-vous. Qu'est-ce que je veux pour mes élèves cette année? Alors, si vous avez vraiment joué le jeu, vous avez pensé, écrit, ce qui est important pour vous, ce qui compte vraiment. Et ça serait d'ailleurs intéressant que vous nous partagiez tout ça dans les commentaires de l'épisode. Ça m'intéresserait beaucoup, en tout cas, de lire vos priorités. Mais pour l'instant, je vais vous parler des miennes. Donc, les trois choses qui me sont venues à l'esprit... vous verrez si ça résonne en vous ou pas, c'est « je veux aider mes élèves à développer leur autonomie ». Ensuite, c'est « je veux que mes élèves se sentent bien » et « je veux que mes élèves progressent ». Voilà, donc ça, c'est les trois premières choses qui me sont venues à l'esprit, comme ça, sans trop réfléchir. Et aujourd'hui, je vous propose de développer le premier point. « Je veux aider mes élèves à développer leur autonomie ». Et puis ce qu'on fera, c'est que les deux autres points, je les développerai dans les deux prochains épisodes, donc le 116e et le 117e. Donc aujourd'hui, restons focalisés sur « je veux aider mes élèves à développer leur autonomie ». Donc pour vous parler de ce point qui me paraît vraiment important, je vais m'appuyer sur un des contenus de ma formation Impact. Et donc cette formation, elle a pour but d'accompagner vraiment les enseignants en maternelle. Des enseignants en élémentaire se sont déjà inscrits, ont déjà participé. Mais je pense vraiment que les personnes que je suis le plus à même d'aider, ce sont les enseignants en maternelle. Alors, je vais vous lire une citation de Philippe Mérieux. Elle est assez longue, mais je ferai des petites pauses et je vais rebondir au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Trop souvent, on présuppose l'autonomie, oubliant quel est l'objectif de l'éducation. C'est le cas lorsqu'en famille, on met l'enfant face à des choix qu'il n'est pas capable d'assumer. Ou qu'à l'école, on lance à des élèves de primaire « Prenez-vous en main, organisez un plan de travail personnel pour la semaine ». Ces injonctions supposent que l'autonomie est déjà là, alors qu'elle est à construire. Et comme elles ne sont guère efficaces en général, laissant s'installer une belle pagaille, elles font la part belle aux spécialistes du « je vous l'avais bien dit » qui se frottent les mains en exigeant le retour à la pure et simple contrainte. Il enchaîne « Souvenons-nous de la formule de Maria Montessori qui résumait ainsi l'éducation. Aide-moi à faire tout seul. » Alors là, je n'oserais pas contredire Philippe Mérieux, mais en fait, cette formule, elle concerne uniquement les 3-6 en réalité. Mais voilà, continuons. Prenons l'image du mur. On le construit en l'étayant, puis on ôte les étais lorsqu'on estime qu'il peut tenir tout seul. J'aime cette métaphore, qui renvoie à la conception du développement élaborée par le psychologue russe Vygotsky. L'éducateur doit avoir le même souci pour l'enfant que le maçon pour le mur, et procéder par étayage et désétayage successifs. Rien d'extraordinaire ni de révolutionnaire à cela. C'est ce qui se passe quand on apprend un enfant à marcher en lui tenant, puis en lui lâchant la main. Mais si l'on prend ce principe au sérieux, je crois qu'on accompagne vraiment l'indispensable processus d'autonomisation des petits hommes. Progressivement, l'enfant, l'écolier, le collégien intériorisent ces aides extérieures, se posent eux-mêmes les questions que leur ont posées les adultes, apprennent à agir seuls. Et devenus capables de faire seuls ce qu'antérieurement ils faisaient avec autrui, ils accèdent à de nouvelles connaissances, à un niveau supérieur de développement. Je reconnais qu'il n'est pas toujours facile d'agir ainsi. Évaluer quand l'enfant a besoin de nous et repérer quand il peut se passer de nous est une entreprise qui demande attention et délicatesse, pour savoir intervenir sans s'imposer et se retirer sans donner le sentiment d'abandonner. L'éducateur a un peu ici le rôle de l'entraîneur au saut en hauteur. Si la barre est placée trop bas, l'enfant n'apprend rien. Il fait ce qu'il sait déjà faire. Si elle est placée trop haut, il se décourage. Ce qui l'aide à progresser, c'est d'estimer la hauteur supérieure à ce qu'il sait déjà faire, mais qui demeure à sa portée. L'apprentissage est alors à la fois difficile et accessible. L'enfant aura besoin d'aider pour franchir cette marche, des conseils, des encouragements, un dialogue constructif. Puis il apprendra à le faire seul. Éduquer, c'est estimer la hauteur de cette marche-là. Et j'utilise ici à dessein le verbe « estimer » pour dépeindre ce qui se joue. Évaluer ou juger, mais également avoir de l'estime, c'est-à-dire porter un regard confiant sur la capacité de l'enfant à franchir l'obstacle. Alors cette longue citation, je la trouve vraiment très puissante et il y avait beaucoup d'informations, donc voilà, n'hésitez pas à réécouter une deuxième fois si vous voulez prendre des notes en même temps. Mais voilà, je trouve qu'en fait, Philippe Mérieux a dit déjà beaucoup de choses sur l'autonomie. Et ça me fait penser, alors dans le dossier, dans ma formation Impact, ensuite j'invite les apprenants, alors oui je dis apprenants parce que pour moi on apprend toute notre vie, donc voilà, les personnes qui s'inscrivent à ma formation, je les appelle des apprenants. Donc j'invite les apprenants à noter une fois où justement ils ont demandé à un élève, de faire preuve d'autonomie alors que ce n'était pas possible. Voilà, je leur demande de décrire la situation d'une manière objective, hein, quand je dis objective, c'est-à-dire la caméra doit pouvoir filmer et le micro doit pouvoir enregistrer, donc sans jugement. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il y a plusieurs apprenants qui ont partagé des exemples, et du coup, ben, voilà, vous pouvez lire, voilà, quand vous êtes inscrit, vous pouvez lire les partages des autres apprenants. Donc voilà, ça c'est vraiment un des avantages de la formation, mais je vous en reparlerai juste après. Je voulais rebondir avec un exemple que j'ai vécu ce matin, donc qui est tout frais, pendant mes ateliers Montessori de l'été justement. J'accueille depuis lundi une petite fille qui va rentrer en grande section, qui a déjà 5 ans. Et oui, elle m'a dit qu'elle avait 5 ans. Et en fait, c'est donc cette petite fille, je la connais pas beaucoup encore, hein. On est jeudi, voilà, je suis un peu en retard, hein. Donc si là vous réalisez que comme le podcast il sort vendredi et qu'on est jeudi et que j'enregistre, je suis en retard, donc je la connais que depuis lundi cette petite, et j'ai remarqué qu'elle était capable de faire beaucoup de choses par elle-même, mais voilà, je voulais pas la mettre en difficulté, donc j'essayais justement, comme dit Philippe Mérieux, de juger en fait à quel moment elle avait besoin de moi, et à quel moment elle n'avait pas besoin, pour pas intervenir si ce n'était pas nécessaire. Et elle avait observé, les deux matinées précédentes, elle avait observé d'autres enfants peindre sur le chevalet. Comme je n'ai plus de rouleau de papier en ce moment, ça, c'est un petit peu plus complexe, parce que les enfants, un petit peu plus compliqué, les enfants prennent une feuille et la fixent sur le tableau avec de la pâte à fixe. Et donc cette petite, ce matin, elle me dit « j'aimerais peindre ». Je lui dis d'accord, et ben écoute, vas-y, le chevalet est libre. Tu as observé d'autres enfants peindre les jours précédents. Vas-y, et si tu as besoin, je suis là que si tu as besoin. Et je l'ai observé. Et c'était vraiment impressionnant parce que donc j'ai des blouses qui sont sur un cintre. Et donc là, vous voyez, il faut que je change mon organisation parce que pour cette petite, ça n'a pas été une entrave, mais ça pourrait l'être pour d'autres. J'ai trois blouses de différentes tailles, mais sur le même cintre. Et donc, cette petite a dû retirer la première blouse, prendre celle qui était en dessous, l'enfiler, attacher les boutons pression, ranger la blouse qui n'était pas nécessaire sur le cintre. Ensuite, elle est allée prendre sa feuille, elle l'a fixée sur le chevalet. Le petit pot d'eau n'avait pas d'eau, l'enfant hier avait oublié d'en remettre, donc elle est allée chercher de l'eau. Elle a fait sa peinture, et d'elle-même, quand elle a eu terminé, elle a pris l'éponge qu'elle est allée humidifier. Elle a nettoyé en fait tout le contour de sa feuille, parce que comme la feuille n'est plus à la bonne taille, vu que j'ai plus de rouleau, forcément tout autour ça avait un petit peu débordé, donc elle est allée chercher l'éponge pour bien frotter tout autour. Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Elle a rincé ses pinceaux et évidemment elle a enlevé sa blouse pour la raccrocher sur le cintre. Donc ça peut vous paraître rien du tout, hein, comme pour un adulte de faire tout ça, mais pour une enfant de 5 ans en fait c'est énorme. Et d'ailleurs je crois que c'était la première fois, en tout cas j'ai pas le souvenir d'avoir vu des enfants aussi jeunes être capables d'enchaîner toutes ces actions sans aide. Voilà, elle n'a pas eu du tout besoin de mon aide. Et en fait, moi, j'aurais pu me dire, oh, elle est toute petite, elle a à peine 5 ans, elle va pas être capable, elle va pas y arriver, donc là, je vais l'aider. Et non, en fait, je l'ai observée pour voir, en fait, si je voulais pas qu'elle soit en difficulté. Mais là, en fait, elle n'a pas eu besoin de mon aide, donc je ne suis pas intervenue. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autonomie, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc voilà pourquoi c'était une des trois premières choses qui m'est venue à l'esprit. Et donc je voulais vous reparler de la façon dont j'ai construite ma formation Impact. Parce que là vous pourriez vous dire, bon bah cette citation de Philippe Mérieux, j'aurais pu la lire en lisant son livre. Voilà, ça m'apporte pas grand chose. Et en fait, quand j'ai construite ma formation en 2019, alors en plus je continue de l'enrichir, donc vous imaginez, hein, depuis 2 ans et demi, je l'ai construite en fait en regroupant les écrits et les travaux de spécialistes. Donc ça, je ne vais pas tous vous les citer, il y en a eu beaucoup. Mais là, je pense à Philippe Mérieux, Marie Montessori, Catherine Guéguin, Steve Masson, Stanislas Dehaene, enfin voilà, c'est Angeline Stollillard, c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais en fait, mon but, ça a été de regrouper tous les travaux de ces spécialistes en ajoutant mon expérience, mon vécu, et en vous questionnant, comme là sur l'autonomie, pour vous demander de réfléchir en fait à une situation où vous avez demandé à un enfant de faire preuve d'autonomie alors que ce n'était pas possible, ou, je pourrais rajouter, que vous êtes intervenu dans l'action d'un enfant, dans l'activité d'un enfant, alors que cet enfant n'avait pas besoin d'aide et était déjà capable de le faire par lui-même. Donc voilà, en fait, c'est le fait de vous questionner, d'engager votre réflexion qui fait une différence en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que maintenant on trouve plein de choses sur internet, on peut juste, voilà, vous auriez pu hein, juste consommer du contenu, lire un livre, mais en fait ça c'est juste la première étape, l'information, avoir l'information. Pour moi la deuxième étape, si on veut vraiment progresser dans notre métier, ça va être de se questionner sur notre pratique, de se confronter à la pratique des autres. Ah oui, moi je fais comme ça, mais je peux aussi voir comment les autres fonctionnent. Et ensuite, mon rôle, ça va être de vous soutenir dans le passage à l'action. S'il y a des choses dont vous avez pris conscience et que vous aimeriez du coup changer dans votre classe, ben moi je vous accompagne en fait dans cette transformation, quoi, dans le passage à l'action. Donc voilà en quoi ma formation peut se différencier des autres formations ou des contenus qu'on trouve comme ça sur Internet. J'étais contente aujourd'hui de vous partager ce premier point. Je veux aider mes élèves à développer leur autonomie. Et la semaine prochaine, je vous partagerai la deuxième chose qui m'était venue à l'esprit. Je veux que mes élèves se sentent bien. En attendant, n'hésitez pas à partager dans les commentaires les choses qui vous sont venues à l'esprit et à me dire si ce premier point sur l'autonomie, ça résonne en vous ou pas. Et voilà, si vous avez des questions sur la formation Impact, eh ben, je me ferai un plaisir d'y répondre. La prochaine session démarre a priori le 15 septembre. Il y aura peut-être un tout petit décalage d'une dizaine ou une quinzaine de jours parce que je suis ravie maintenant, je fais partie d'un organisme de formation et du Scopi. Et donc pour certaines personnes, selon leur cas de figure, certains enseignants, ils pourront demander un financement pour ne pas avoir à financer la formation de leur poche. Donc voilà, je sais que pour les enseignants du privé sous contrat, ça va être beaucoup plus simple pour les enseignants du public, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais ça vous intéresse, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez envie de transformer votre quotidien en classe pour un plein épanouissement affectif et cognitif, pour celui des élèves et pour le vôtre. Voilà, j'avais pas choisi le nom du podcast au hasard. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.